Bonjour à toutes, je suis Sabrina et je vous accueille sur le podcast Maman Travail, un podcast où l'on parle boulot, maternité et surtout charge mentale, le tout, sans tabou. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de mères, de femmes qui nous raconteront leur maternité et la place qu'a pris leur travail dans ce tout nouvel équilibre. Et sans trop vous spoiler, ce n'est simple pour aucune d'entre nous. Qui dit nouvelle semaine dit nouvel épisode inédit. Et aujourd'hui, on va parler reprise du boulot. La fameuse reprise qui nous angoisse toutes, pour laquelle on verse quelques larmes parfois, pour laquelle on se sent stressé, dépassé, avec une charge mentale qui explose. Et souvent, on ne se sent pas à la hauteur quand on reprend. On a l'impression de devoir être partout, alors qu'en réalité, on a juste envie de rentrer chez nous, de retrouver notre bébé et de profiter au maximum. Pour parler de ce sujet sensible, mais d'utilité publique, j'ai reçu Amandine. Amandine, à la naissance de son premier enfant, elle n'a pas réussi à trouver sa place à son retour de congé mat. Elle était plus dedans, elle avait envie de faire autre chose. Comme si elle sentait que sa vie d'avant n'était plus compatible avec sa vie d'aujourd'hui. Ou en tout cas, elle n'avait plus les mêmes envies. Elle s'est quand même accrochée. Elle a quand même tenté, elle a persisté, malgré un mal-être qui grandissait énormément. Chaque matin, elle avait la boule au ventre, mais elle continuait. Elle continuait d'y aller parce qu'elle se devait d'y aller, parce que financièrement c'était pas envisageable de penser à autre chose. Un jour elle en a eu marre, et elle a tout plaqué pour faire autre chose. Et cette autre chose, c'est de donner aux femmes l'accompagnement qu'elle n'a pas eu, cet accompagnement qu'elle aurait aimé avoir pour reprendre sereinement son travail. Elle aurait peut-être réussi à se préparer au retour au boulot et limiter un petit peu les dégâts. Alors c'est la mission qu'elle s'est donnée. Aider, accompagner chaque femme à reprendre sereinement son travail après le congé mat. Du coup, pendant cet épisode, on va parler de la reconversion d'Amandine, comment elle a fait, par quelle étape elle est passée. En plus de ça, sans vous spoiler, elle a eu bébé 2, ou en tout cas elle était enceinte de bébé 2 quand elle s'est formée à son nouveau métier dont elle ne connaissait pas du tout les bases. Bon, je vous laisse découvrir l'épisode du jour, et comme d'habitude, j'espère qu'il vous plaira. C'est votre moment pour faire une pause dans votre quotidien, alors bonne écoute! Coucou Amandine.
Salut Sabrina.
Merci beaucoup d'être avec nous sur le podcast.
Merci à toi de m'avoir invitée.
Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie, nous parler un petit peu de ta famille et nous dire un peu qui tu es?
Alors moi je suis Amandine Jiquel, je suis coach professionnelle, ce qui n'a pas toujours été le cas puisqu'avant j'ai été avocate. Et j'ai changé de trajectoire professionnelle après la naissance de ma fille Céleste, qui est née en 2018. J'ai changé de trajectoire parce que le métier d'avocat ne me convenait plus, ne me permettait plus de m'épanouir. Et l'événement déclencheur a été mon retour au travail après mon congé maternité, qui a été dévastateur et qui m'a en tout cas permise, moi, de me remettre sur le droit chemin. Donc aujourd'hui, moi, je me suis formée au coaching avec en tête l'idée de pouvoir accompagner toutes ces femmes qui, comme moi, se sentaient seules, perdues et ne savaient pas vers qui se tourner. Donc les accompagner au moment de la reprise et même avant pour les préparer à la reprise du travail. Donc après, j'ai eu mon deuxième enfant, Augustin, qui est né en mai 2021, donc juste après ma certification. Et nous vivons avec mes deux enfants et mon conjoint à Nantes.
Avant que tu deviennes maman, tu me disais que tu étais avocate. Ça faisait longtemps que tu étais avocate avant d'être maman?
J'ai été avocate pendant 5 ans. Ben, c'était ma première, j'ai eu une expérience en tant qu'avocate dans ce premier cabinet. Et en même temps, je te dis n'importe quoi parce que j'en ai eu une deuxième, mais beaucoup, beaucoup plus courte de quelques mois. Après mon retour au travail, parce que j'ai démissionné, et comme je voulais pas rester sur un échec et que je voulais pas, je savais pas en fait si c'était l'environnement de travail ou si c'était le métier, je voulais me laisser une deuxième chance. Et donc c'est pour ça que j'ai retenté, j'ai postulé dans un autre cabinet pour m'assurer en fait que c'était juste l'environnement. Et au final, c'était le métier parce que les gens étaient tellement bienveillants avec moi, mais je sais pas, la flamme elle s'était éteinte. Donc une grosse expérience de 5 ans et une petite de 3 mois.
Alors justement, quand t'as voulu avoir ton premier enfant, donc t'étais en poste, est-ce que la grossesse s'est bien passée dans ton travail? Est-ce qu'à ce moment-là tu te projetais en tant qu'avocate, maman?
Alors la grossesse, moi j'ai toujours voulu avoir des enfants. Je me suis pas du tout projetée en tant que maman, avocate. Enfin, c'est pas du tout quelque chose auquel je pensais. Moi, je pensais à avoir un bébé, point. Vraiment, tout l'après, ça n'existait pas pour moi. Non pas que ça n'existe pas, puisque forcément ça existe, mais ça n'existait pas dans ma tête. Enfin, moi, je ne me posais absolument pas de questions sur comment je vais faire. Pas du tout, du tout, du tout. Ma grossesse, elle s'est hyper bien passée. La seule chose qui, moi, m'effrayait, c'était de l'annoncer à ma boss. C'était juste ça. Le reste, et aussi de se dire comment elle va faire quand je serai en congé maternité. Mais pas comment moi, je vais faire après avec un bébé, avec des horaires pas toujours très cool, avec beaucoup de déplacements. Ça, j'y pensais pas. Ça m'est tombé dessus comme ça, et c'est pour ça que le retour a été d'autant plus
brutal.
Ouais, d'autant plus brutal.
Quand tu l'as annoncé à ta boss, est-ce que ça s'est passé comme tu le souhaitais ou douche froide?
Non, pas du tout la douche froide, mais c'est marrant parce que on est quasiment pas toutes, parce que je vais pas faire de généralité, mais beaucoup beaucoup de femmes appréhendent l'annonce de la grossesse.
Ouais.
C'est vraiment quelque chose qu'on redoute. Et quand on l'annonce, en fait, en face, on a souvent des réactions très bienveillantes. Ma boss, elle était, moi, je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que j'avais l'impression de la trahir. Et surtout parce que 3 jours avant, ma collègue qui travaillait dans la même équipe que moi, lui annonçait qu'elle était enceinte pour la 3e fois. Moi, c'est mon premier. Enfin, je sais pas, j'étais mais en panique totale. Et en fait, elle était trop contente pour moi, vraiment, parce que c'était quelqu'un de bien. Et elle m'a dit, mais t'inquiète pas, on va trouver des solutions. Il y avait vraiment mais zéro problème. C'était moi. La culpabilité, elle commence avant même d'être maman. C'est terrible.
Ouais, c'est vrai que cette annonce, elle fait peur à beaucoup de femmes. Enfin, je pense que la majorité. Et tu vois, je me dis que souvent, au moment où on annonce notre grossesse, on se met directement à penser à comment ils vont faire sans nous, comment ils vont s'organiser, comment on peut les aider finalement. Alors qu'en fait,
Ouais, je pense que c'est. On a un peu ce devoir, enfin beaucoup de femmes l'ont en tout cas, de ce que je constate, ce devoir de loyauté en fait envers notre patron, notre boss. Le fait d'annoncer une grossesse et de devoir partir s'absenter pour le congé mat, on a l'impression en fait je grossis le trait, mais qu'on lui plante un couteau dans le dos et qu'on le trahit. Je pense pour certaines personnes, c'est un peu ça qui se passe, même si encore une fois, je grossis le trait, mais c'est ce pouvoir de loyauté qui fait qu'on culpabilise à l'idée de l'annoncer et qu'on culpabilise quand on revient parce qu'on s'est absenté. Donc, on ne peut pas se permettre de dire que ça ne va pas quand on revient. Cette espèce de devoir de loyauté qu'on peut ressentir envers son employeur, qui est très fort chez les femmes.
Oui, mais je pense que c'est lié à la société et à la place qu'on a aussi. Hein.
Oui, puis peut-être aussi la place qu'on donne aussi aux petites filles, tu sais, les
ouais.
filles, elles sont là, en fait, elles sont sur cette planète pour prendre soin des autres. On place les filles dans cette position-là, du care, avec un grand C, de prendre soin des autres, tu sais, c'est toujours la fille, elle doit être gentille, elle doit faire attention aux autres, fais attention à ta petite sœur, à ton petit frère, sois gentille, etc. Qu'on nous place, en fait, inconsciemment, depuis qu'on est toute petite, dans cette posture-là. Et c'est pour ça que c'est vrai que ces comportements-là, ils se répètent, ils sentent qu'ils sont tellement présents que même professionnellement, on a ce besoin de bien faire les choses.
Toi, tu as attendu la fin de ton 3e mois pour l'annoncer ou tu l'as annoncé beaucoup plus tôt?
Non, je crois que je me souviens pas exactement, mais je crois que j'ai attendu 3 mois, pas très longtemps après ou pas très longtemps avant. Ouais, j'étais assez stressée et du coup, je préférais attendre. Et puis, tu vois, encore une fois, la bonne élève, moi, on me dit « attends 3 mois, j'attends 3 mois », donc j'ai attendu.
Et le début de ta grossesse, il s'est bien passé? T'as pas été malade de désagréments particuliers? Parce que du coup, ce qui est compliqué, et moi, c'est ce que j'ai trouvé aussi, c'est que les 3 premiers mois, tu dis rien. Enfin, généralement, il y en a qui le disent maintenant beaucoup plus qu'avant, mais tu dis rien. Et du coup, tu te retrouves dans une espèce de... Tu vois, t'es un peu seule
Ouais.
Tu vis tes premiers désagréments toute seule, surtout quand c'est ta première grossesse. Parfois, t'es très malade, il y en a qui vomissent beaucoup. Et t'es hyper fatiguée, tu dois gérer tes journées de travail comme si de rien n'était.
C'est vrai qu'on oublie, on a tendance à oublier, mais c'est vrai que les 3 premiers mois, ils sont ardos.
Ouais.
Et je crois de mémoire que j'en avais parlé, je l'avais dit en fait à ma co-bureau. On était 3 collaboratrices dans l'équipe et celle qui était enceinte n'était pas dans mon bureau. Et donc ma co-bureau, elle était déjà maman. Et je lui avais dit parce que j'étais fatiguée et parce que j'avais envie aussi de le partager à quelqu'un au travail. C'est hyper dur. Parfois, en plus, t'as juste envie de te plaindre, de dire que t'es fatiguée, etc. Donc elle, je lui avais dit, j'étais pas malade, j'avais des nausées, mais c'était plutôt le soir à la maison. Donc franchement, ça allait. Ça allait. Je l'ai bien vécu. Et puis toute ma grossesse, globalement, c'est même pas globalement, elle s'est très bien passée.
T'as pris ton congé maternité normal ou t'as continué jusqu'au bout,
Alors le congé maternité, quand tu es avocate, il est différent. Tu t'arrêtes 15 jours avant ta date prévue d'accouchement.
Ok. Mais du coup, t'as plus de temps après?
Et tu as plus de temps après. Mais moi, je ne me suis pas arrêtée 15 jours avant. J'ai accouché 15 jours avant, donc si je m'étais arrêtée, ça aurait été compliqué. Non, ma sage-femme m'avait arrêtée avant parce que j'avais des contractions. Donc j'avais fait un arrêt maladie. Je crois que j'ai enchaîné sur du pato. En fait, je me suis arrêtée un mois et demi avant, je crois.
Ouais.
Et ouais, j'avais des contractions, donc c'était mieux de s'arrêter. Et puis à la fin,
Bah, faut tenir, hein, 15 jours avant d'accoucher, c'est costaud.
il y en a beaucoup qui s'arrêtent avant. T'es tellement fatiguée à la fin que 15 jours avant, c'est...
Ouais, et puis t'as besoin de te mettre dans ta bulle, t'as besoin de penser à ton bébé, à toi, enfin c'est vraiment focus à un moment donné.
Ouais, je crois que c'est la partie du congé maternité que j'ai préférée avant
Bah
bébé.
oui.
Parce que t'es chez toi, tu t'occupes de toi, tu ranges les petits vêtements, tu prépares la chambre. Tu peux aussi peut-être plus facilement rentrer en communication, tu sais, avec ton bébé. Enfin, tu prends soin, en fait.
Mais c'est surtout quand c'est ta première grossesse, parce que après la deuxième c'est un peu différent, mais effectivement la première tu prends le temps.
C'est vrai que pour une première grossesse, c'est encore plus magique.
Et alors du coup cet accouchement, comment il s'est passé? Tu t'étais renseignée beaucoup ou tu vivais un peu au jour le jour, même pour l'accouchement, tu t'es dit, enfin tu t'étais pas spécialement renseignée?
J'avais une peur bleue de l'accouchement. Bon, je pense que c'est tous les films américains que j'ai vus pendant ma jeunesse, tu sais, où tu vois les femmes hurler. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Je peux pas. Moi, je veux pas ça. C'est pas possible que ça soit que ça, l'accouchement. J'avais beaucoup lu de livres sur l'accouchement, enfin sur un peu tout. Ça m'avait pas pour autant rassurée. Et c'est une femme un jour, une sage-femme. Parce que j'avais eu à je sais plus 7 mois, 8 mois, je sais plus, vers la fin, c'était trop tôt pour accoucher, mais c'était plutôt vers la fin qu'au début, j'avais eu des pertes de sang. Et du coup, j'étais tout de suite, tu t'imagines le scénario catastrophe. Et donc on était allé aux urgences et la sage-femme m'avait dit parce que j'étais pas bien, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Donc elle m'avait rassurée, elle m'avait dit que c'était, je sais plus trop à quoi c'était lié, mais que tout allait bien. Et elle m'avait dit, mais vous avez peur. Enfin, elle m'avait beaucoup parlé et questionné. Et je lui avais dit que j'avais très, très peur de l'accouchement. Et elle m'avait dit, mais vous savez, rassurez-vous, ça viendra crescendo. Vous aurez le temps de voir la douleur arriver. Elle va s'installer petit à petit. Et vous aurez le temps de vous y habituer. Donc, vraiment, vous inquiétez pas. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie parce que elle m'avait tellement rassurée. Elle était tellement gentille. Et quand j'étais rentrée, je m'étais dit, ok, donc c'est bon en fait. Je vais pas tout de suite, tu sais, avoir le coup de poignard dans le ventre et hurler et être pas bien. Peut-être que ça arrive à certaines femmes, je pense, mais moi c'était pas le cas, heureusement, et ça m'avait beaucoup beaucoup aidée.
Est-ce que tu avais pris des dispositions pour l'après, justement, avec ton travail? Tu leur avais demandé de prolonger un peu ton congé ou justement, comme t'étais pas dans ce après reprise, bah t'as juste pris ce qu'il y avait à prendre en termes de congé?
Alors j'ai été en congé maternité durant la durée légale, qui correspondait en tout cas à la durée du congé maternité pour moi. Et il me semble que j'ai ajouté une ou deux semaines de congé, une semaine je crois. Ma fille avait à peu près 3 mois et demi quand j'ai repris le travail. Mais je sais pas, je me posais pas non plus de questions. Pour moi, le congé maternité s'arrêtait, j'avais prolongé un petit peu et c'est tout. Il s'arrêtait quoi. Fallait que je reprenne, fallait bien que j'y retourne. Même si c'était horrible et que c'était un crève-cœur de la laisser, mais je me suis pas trop posé de questions.
T'as allaité ta première?
Non, pas du tout. Je sais pas, c'est quelque chose moi qui ne m'a jamais attirée. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est un rapport aussi moi avec mon propre corps. Je me suis toujours dit que ma fille, mes enfants seraient biberonnés. Ils ont eu leur petit biberon et aussi parce que je voulais que le papa y fasse aussi, qu'il ait son moment avec notre enfant et j'avais pas envie que ça soit que moi qui me réveille la nuit pour donner à manger à mon bébé. Ça, c'était hors de question. Donc tout ça a fait que non, je n'ai pas allaité ni la première et ni le deuxième.
Quand t'es rentrée à la maison, le temps de prendre vos marques, t'as trouvé ça plutôt... Parce qu'on n'en parle pas souvent du retour à la maison, mais est-ce que toi, t'as trouvé ça plutôt simple, plutôt comme ce à quoi tu t'attendais, c'est-à-dire, c'est pas facile, mais on s'adapte. Est-ce que tu te rappelles de cette période un peu qui peut-être un peu plus lointaine?
Ouais, je m'en rappelle très bien parce que j'avais pas du tout envie de partir parce que j'avais hyper peur de mal faire. En fait, on apprend tout, tout est nouveau. Enfin, le bébé, on dit toujours qu'il n'est pas avec un mode d'emploi. Le mode d'emploi, on l'apprend, on nous montre un peu les gestes, etc. à la maternité, mais en fait, tout va très vite. On est tellement fatigué. Moi, je me souviens que j'étais tellement fatiguée que quand quelqu'un me montrait comment faire pour laver le cordon, les yeux, la couche, j'étais là, oh là là, mais je me souviens déjà plus comment elle a fait, je vais jamais y arriver, en fait. Et puis le papa était pas tout le temps là à la maternité, à chaque change, dès que l'infirmière vient, enfin, il était pas tout le temps là. J'étais tellement jet lag que je me suis dit, j'y arriverai jamais, j'avais peur de mal faire. Et puis, très clairement, j'avais peur aussi pour mon bébé, enfin, c'est une responsabilité de dingue que de s'occuper d'un bébé, c'est un peu notre fonction première, c'est de le maintenir en sécurité, quoi, ce bébé en vie même, le nourrir et de le maintenir en vie. Et quand il est tout petit,
C'est ça, tu dois répondre à leurs besoins primaires.
Et ça fait peur. Alors après, on dit toujours aux mamans, faut se faire confiance. Mais quand t'es une jeune maman, que c'est ton premier, que tu reviens à la maison, que ton bébé il pleure, parce que moi ma fille elle pleurait tous les soirs, genre de 17h à parfois 23h, parfois 3h du matin.
Ouais, les pleurs de décharge.
Moi, je savais pas du tout ce que c'était. Je savais juste que c'était quand même trop tôt pour des coliques parce que la première fois qu'elle a fait ça, c'était le premier soir où on est rentré de la maternité. Et là, j'ai regardé mon conjoint, j'ai fait ça va pas être possible. Et tu te dis, mais waouh, là, j'ai pas le mode d'emploi et personne m'a dit ce que c'était ce truc.
Ouais, en fait, ce qui est compliqué, c'est que t'apprends tout et en plus de ça, ton corps n'est plus le même qu'avant, il change, tout est un peu bizarre, tout est une découverte, surtout la première fois, tout est assez étonnant, tu vois, ton ventre est un peu bizarre, tout est nouveau, donc faut se réhabituer à tout ça, quoi.
Ouais, c'est fou, et encore aujourd'hui, grâce à tous les podcasts, les réseaux, les groupes de mamans, tout ça, moi, j'avais pas ça. Bliss, tu vois, je crois que c'était les débuts. Il n'y avait pas tout ça. Et pourtant, c'était pas il y a très longtemps, mais suffisamment longtemps pour que je n'ai pas toutes ces infos. Donc, c'est clair que tu rentres chez toi avec le ventre tout mou, vide, avec ton bébé qui pleure, tu sais pas pourquoi. Heureusement qu'il y a la sage-femme qui passe au début tous les jours ou tous les deux jours pour voir le bébé et te voir toi, mais sinon t'es seule, il n'y a plus personne. Les professionnels que tu vas voir, maintenant c'est pour le bébé, c'est plus pour toi.
Ouais, c'est clair, très peu te demandent comment toi tu vas, tout le monde se préoccupe du bébé et ça c'est un vrai truc.
Et ça, c'est quelque chose qui m'a le plus marqué. C'est, on a des rendez-vous obligatoires pendant la grossesse, donc tout le monde nous demande comment on va et c'est indispensable parce que c'est toi qui portes le bébé, donc t'as plutôt intérêt à aller bien. Donc les gens prennent soin de toi. Mais une fois que le bébé est sorti, c'est lui dont on doit prendre soin. pas toi. Alors ça commence à changer, hein, heureusement, avec les doulas, enfin tous ces métiers en fait, qui s'occupent des mamans en postpartum. Mais avant, ça n'existait pas. Et les médecins, c'est pas leur métier, en fait, eux.
Oui.
C'est des médecins, quoi. C'est des scientifiques. C'est, ils font leur métier. Et le gynéco, une fois que le bébé est sorti, il est sorti, quoi, point. Et j'ai trouvé ça très dur.
Bah, tu sens cette solitude, surtout au début quand t'es en congé mat, postpartum. Je sais pas si ton conjoint avait pris le congé paternité, mais il me semble que déjà c'était 11 jours.
C'est passé à la vitesse de l'éclair. Mais oui, et c'est marrant parce que, tu vois, là on est en 2024 et aujourd'hui, c'est pas que c'est impensable qu'une femme accouche, rentre à la maison sans aucune info, sans rien, mais c'est tellement l'information est tellement plus accessible. Et même entre nous, entre femmes, on laisse pas une copine rentrer à la maison sans se soucier de son état. Et c'est fou de se dire que à l'époque, et encore une fois, je dis à l'époque, mais c'était en 2018, il n'y avait pas tout ça. Et c'est fou de se dire que j'ai fait partie de ces femmes qui rentrent chez elles et qui se sont senties seules et qui se sont demandé si c'était normal d'être comme ça, qui se sont demandé si c'était normal de faire ça. Et ouais, c'est complètement fou. J'étais tellement seule. Mais après, il y a des moments où oui, je me sentais seule, j'étais pas bien, mais globalement, le congé maternité, je l'ai bien vécu, moi. Parce que ma fille, elle a très vite dormi, elle était parfaite pour tout. Et du coup, ça a été très, très simple. Et je pense que le fait de se sentir seule et d'avoir besoin d'aide, c'est encore plus présent chez les femmes qui ont des bébés, qui dorment pas, qui ont des difficultés, qui ont des reflux, etc. Parce que il y a la solitude déjà qui est liée au postpartum. Et quand on est avec un bébé qui a des difficultés de sommeil, des reflux et tous les un peu les tracas qui concernent les nourrissons, on se sent encore plus seul parce que bien souvent, les médecins mettent du temps aussi à détecter des choses. C'est seul aussi dans toutes ces démarches, dans ces recherches.
Ouais, c'est un gros combat, ça. Ouais.
Un gros combat et tout ça, ça vient alimenter cette fatigue que t'accumules. Tu deviens complètement zinzin. Enfin, la fatigue, c'est... Même maintenant que mes enfants sont un peu plus grands et dorment, je me rends compte que juste une nuit où quelqu'un est malade, ça te remet dans un état végétatif et tu te dis, mais comment j'ai fait pour tenir autant de temps? C'est fou.
Ouais, la fatigue, c'est incroyable. Tu vois, moi, j'en ai deux qui sont rapprochés et qui dorment pas. Enfin, même ma première fait pas forcément bien ses nuits. Et je me dis que c'est le nerf de la guerre. Clairement, tous les matins, je me réveille et je me dis, mais en fait, j'ai encore pas dormi ou très peu.
C'est vrai que si c'était à refaire, moi, j'attendrais mon deuxième. Ça a été catastrophique, mais si c'était à refaire, j'attendrais pas aussi longtemps avant de me faire accompagner parce que je me suis fait accompagner. Enfin, on s'est fait accompagner pour le sommeil parce qu'au bout d'un moment, ça va pas, quoi. T'arrives plus à travailler, t'engueules tout le temps avec ton mec, t'arrives à rien, quoi.
T'es un peu une loque et puis effectivement, le baby clash arrive très vite.
Ah, ça, c'est clair. Donc, c'est primordial.
Ton bébé avait quel âge quand t'as repris ton travail? Tu t'es pas du tout préparée, t'y es retournée un jour, t'as fait l'adaptation crèche ou assistante maternelle pour ton enfant?
Alors, ma fille, c'était une nounou à la maison. Si j'avais fait une petite adaptation, quand tu laisses ton bébé à une nounou, l'adaptation, elle est quand même moins cadrée qu'à la crèche. À la crèche, mon fils, il est à la crèche. L'adaptation, ça a duré je sais pas, au moins 2 semaines. Ça m'a paru une éternité. Le premier jour, tu le laisses une demi-heure. Le deuxième jour, tu le laisses 1 heure. Le troisième jour, tu le laisses 1 heure et demie. Enfin, toi, c'est vraiment, tu vas crescendo. Après, tu le laisses pour un repas, après une sieste. Avant d'arriver à la journée entière, waouh, il s'en est passé du temps. Alors que la nounou, c'est elle et nous, en fait, qui avons décidé de comment ça allait se passer. Donc, je l'avais laissé, je me souviens, la première fois, 1 heure. Et on était allé crescendo, mais beaucoup plus rapidement que l'adaptation avec la crèche. J'étais en larmes. La première fois que je l'ai laissé 1 heure, je suis rentrée, j'ai passé mon heure à pleurer. Et donc, quand j'ai repris le travail, l'adaptation, elle avait été faite, mais elle aurait mérité de durer un peu plus longtemps, je pense. Mais ça a été hyper dur parce que je pensais qu'à elle, tout le temps. Et moi, j'étais pas préparée à reprendre le travail. Enfin, il n'y a pas que l'adaptation dans la préparation à la reprise du travail. Il y a plein d'autres choses. Mais moi, j'ai toutes les erreurs à ne pas commettre, je les ai commises. J'ai pas été préparée. J'ai tout fait à l'envers, quoi. C'est pour ça que ça a été aussi très, très dur.
T'avais pas vu avec ta boss avant de revenir pour faire un aménagement de poche? T'as repris à 100%?
Ah oui, j'ai rien fait. Moi, je suis revenue comme une petite fleur. où est mon bureau, ton bureau est là.
Et ça a dû être très dur en vrai, parce que tu t'es senti encore plus seule. Surtout que quand tu reviens, t'es un peu un ovni. Déjà, tu comprends la moitié de ce que les gens te disent, t'es pas dedans.
Déjà, alors ça, je le savais avant de revenir, mais on avait déménagé, notre équipe avait déménagé physiquement dans le cabinet. Donc nous, on avait migré à l'étage, le dernier étage du cabinet. Et moi, mon bureau, je sais plus si on me l'avait attribué ou si je l'avais choisi, il y avait trois petits bureaux. Et moi, mon bureau, c'était un des plus petits, et il était sous les toits. C'était acté, c'était comme ça, on était tous au même étage. Mais néanmoins, quand tu reprends le travail, que tu avais l'habitude de partager ton bureau, un grand bureau très lumineux, avec une collègue avec qui tu t'entendais bien, et que tu te retrouves au dernier étage d'un cabinet, avec un Velux, un tout petit bureau, que tu es toute seule, bah, ça fait un peu bizarre. Mon téléphone, moi, mon téléphone, il n'avait pas été reprogrammé. J'appelais les gens en interne, en cabinet. C'était écrit Mathilde. C'était le nom de ma remplaçante.
Ah ouais.
Ils étaient là, mais c'est qui? Je comprends pas. En fait, personne n'avait été prévenu de mon retour. Personne.
Oui, donc même l'entreprise n'avait quand même pas préparé ton retour auprès des autres, ce qui est encore plus compliqué pour toi quand t'arrives, quoi.
Absolument pas. Donc peut-être que certaines personnes le savaient, le bouche à oreille, voilà, mais à part mes collègues, j'avais plutôt l'impression que personne n'était au courant. Et donc ça, plus des trucs en fait que je faisais un peu à la chaîne avant, je savais plus faire. Vraiment, je savais plus faire. Je savais plus par où commencer. Et c'est hyper dur. Et je pense à toutes les femmes qui reprennent le travail aujourd'hui, demain, enfin, sans avoir pris un temps avant pour discuter des conditions de la reprise avec leur boss ou leur manager, c'est horrible.
Bah, en fait, niveau charge mentale, c'est hyper dur. Déjà, t'as une charge qui est différente d'avant. Enfin, t'es pas la même qu'avant, et ça, faut se le dire. T'es une nouvelle personne. T'as des nouvelles envies, parce qu'on va y revenir, mais je pense que c'est aussi pour ça que t'as changé de métier. Mais on n'est plus la même, donc on n'a plus la même perception des choses. Les priorités sont plus les mêmes. Enfin, clairement, avant, tu stressais pour un compte rendu pas fait, par exemple. Aujourd'hui, c'est pas ce qui va te mettre en stress, parce que t'as d'autres manière de prioriser, tu vois.
C'est vrai qu'on devient une autre personne. Moi, je l'ai vraiment vécu. Ça a été très, très, très fort. Quand j'étais encore avocate, le postpartum, tout ça s'est hyper bien passé. Mais c'est vrai que le devenir mère, moi, j'appelle ça le devenir mère, c'est quelque chose qui est... J'ai même pas de mots assez forts pour décrire à quel point ça a été très fort dans ma vie. De me rendre compte, la Amandine d'avant est devenue une maman. Et en fait, globalement, j'avais Amandine d'avant et Amandine maman. Et donc, j'avais ces deux identités qui devaient cohabiter ensemble dans un seul et même corps physique. Et j'ai trouvé ça tellement, tellement perturbant, à la limite de la schizophrénie, vraiment. Alors, je ne suis pas schizophrène, hein, je ne suis pas devenue schizophrène pour autant. Mais je trouve ça, en fait, personne nous apprend aussi à gérer se devenir mère, comment ces changements psychologiques, comment tu les intègres déjà dans ta vie au quotidien, qu'est-ce que tu en fais de ça? Ça veut dire quoi être maman? Tu es responsable de quelqu'un? Ça veut dire plein de choses être maman. Ça veut dire plein plein de choses. C'est pas juste avoir mis au monde quelqu'un. Ça va au-delà de ça. Et tous ces bouleversements psychologiques, qu'est-ce que tu en fais aussi quand tu reprends le travail? Parce que tu deviens maman et quand tu reprends le travail, tu deviens une mère qui travaille. Et ça, c'est aussi compliqué que devenir mère pour moi. T'as le tsunami du devenir mère et t'as le tsunami de la reprise du travail en étant devenue maman. Et quand t'as les deux ensemble, t'as à peine eu le temps de prendre du recul, sur ce qui s'est passé, sur tous ces bouleversements psychiques, psychologiques, qui sont liés à ce devenir mère. T'as à peine eu le temps, voire pas du tout, parce que tout s'enchaîne aussi en congé maternité. Et tu dois reprendre le travail. Et reprendre le travail comme avant, comme si de rien n'était. On sait tous que c'est pas possible, mais pour autant, la réalité, c'est ça. Et donc, quand tu reprends le travail, non seulement tu as la fatigue que tu as accumulée, tu as le travail qui, lui, ne s'est pas arrêté pendant que toi, tu es partie en congé maternité. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ralentisse au moment où tu reviennes. Ça, c'est plus dans la tête des employeurs, même s'il y a des employeurs qui ne sont pas comme ça. Mais... Et donc, toi, tu reviens dans tout ce contexte-là avec tous ces changements qui se sont passés intrinsèquement. Et t'es là, bah, tu regardes les gens, tu comprends pas, tu t'as pas le temps, tu dois faire, mais en même temps, tu peux pas, tu arrives pas. Et ça, je comprends tellement le nombre de femmes qui me disent qu'elles sont perdues, qu'elles sont surpassées, qu'elles savent plus où donner de la tête. Et comme tu le disais si bien, les priorités, elles changent, même si le travail reste important pour certaines femmes. Et moi, je l'ai vécu.
Ouais, t'es plus dedans. Et en tout cas, il faut un long moment avant de se remettre dans le bain. Et ça passe par plein d'étapes, effectivement, pour revenir au boulot et être opérationnel à 100%, quoi.
Ouais, se sentir pleinement revenu. C'est pour ça que moi, quand j'accompagne les mamans, je leur demande toujours depuis combien de temps elles ont repris le travail. Et je constate, en fait, qu'il n'y a pas de règle. Il y a des femmes que j'accompagne qui ont repris le travail il y a 2 ans. Et il y en a d'autres qui ne l'ont même pas repris, mais qui savent déjà que ça va être compliqué. Et il y a des femmes qui ont repris le travail depuis, je sais pas, 1 semaine, 1, 2 mois, et qui ont besoin d'avoir cette soupape. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de règle. Il y a des femmes qui se sentent pleinement revenues rapidement et d'autres moins. Et c'est perturbant. Mais savoir que déjà, il n'y a pas de règle et que c'est normal aussi. Ça permet aussi de relativiser, même si ça reste dur au quotidien. Ça aide aussi, je trouve.
Quand tu te dis que ça peut être comme ça et que ça peut être normal, tu déculpabilises beaucoup plus vite.
Mais c'est clair. Mais par contre, pour relativiser, encore faut-il le savoir.
Oui, c'est ça.
Quand tu n'en parles pas, quand tu as un peu peur aussi de le dire à tes amis, aux autres, à tes collègues, tu as moins de chances qu'on te réponde en retour « Mais moi aussi, t'inquiète pas, c'est normal, moi aussi je l'ai vécu, etc. »
T'oses pas en parler parce que tu vois que tout le monde le fait, nos parents l'ont fait. Enfin, du coup, tu te dis, bah, c'est que ça doit être comme ça et c'est que c'est moi qui sais pas gérer parce qu'on se remet beaucoup en question déjà quand on devient mère.
Parce que c'est complètement tabou aussi. Je vais quand même pas dire que ça va pas alors que je me suis absentée X mois. Beaucoup de femmes se le disent ça. Enfin, ils m'ont attendu, ils m'attendent, il y a du travail. Enfin, je peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible, ils m'attendent, ils ont besoin de moi. Beaucoup de femmes ont ce discours-là. Et ça, il n'y a pas de jugement, tu vois, de ma part. Et moi, je l'ai eu aussi, ce discours-là. Mais c'est tellement dommage, tellement dommage. Et là, c'est aux entreprises aussi de prendre en considération ce sujet-là pour aussi accompagner les femmes.
Les entreprises ont leur part de responsabilité dans ce mal-être maternel quand tu reviens au boulot.
Ah oui, ben ça, tu prêches une convaincue. Ça, c'est clair. Après, il y a des entreprises qui restent aussi quand même malgré tout bienveillantes.
Mm.
C'est important de le souligner, mais il y en a d'autres pour qui c'est pas un sujet, le retour au travail. Pourtant, quand 6 mois après, la maman qui est revenue démissionne, là, ça devient un sujet.
C'est ça.
Pour éviter les départs de ces femmes-là, en tout cas pour éviter que ces femmes quittent l'entreprise pour les mauvaises raisons, elles ont tout intérêt à les accompagner avant même qu'elles partent en congé maternité.
Justement, à quel moment, toi, t'as décidé que c'était plus ta place? Comment ça s'est passé, cette transition? J'imagine que ça a été difficile comme décision à prendre parce que t'es plus toute seule, t'as un enfant.
Ouais, ça a été hyper dur parce que moi, très rapidement, je me suis dit, oh là là, mais comment je vais faire? Et si encore en face, j'avais eu des gens qui m'avaient aidé, qui m'avaient dit, t'inquiète pas, ça va aller, prends ton après-midi. J'étais libérale, hein. En soi, je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais m'organiser comme je voulais. Mais la réalité, c'est que c'est pas le cas. Si en face, j'avais eu des gens bienveillants qui m'avaient dit « ça va aller, juste ça », peut-être que ça se serait passé, que j'aurais réussi à prendre sur moi, que peut-être que ce serait passé. Mais en fait, en face, j'avais des gens qui, plusieurs fois dans la journée, venaient me voir en me disant « allez, ben là, faut y aller, Amandine, c'est bon, au bout de quelques jours, ça fait tant de jours que t'es revenue, là, c'est bon, faut y aller ». Et j'étais là, mais non, enfin, non, tu peux pas me dire ça, c'est pas possible. Et toi, t'es tellement vulnérable que t'oses rien dire.
T'acquiesces et puis tu dis oui, oui.
Tu fermes la porte et tu pleures, quoi. C'est tout. Et je me souviendrai toute ma vie de ces moments-là très durs. La goutte d'eau, ça a été, j'avais appris à ce moment-là que mon grand-père était malade, avait un cancer. Et un jour, ben, je lis le mail de mon grand-père, donc je fonds en larmes dans mon bureau, je ferme la porte. Ma boss rentre, elle me voit dans cet état-là. Je lui explique que je suis désolée, mais que j'ai des problèmes personnels. Et elle me dit, mais Amandine, on en a tous. Donc, en gros, bah, remets-toi au travail. Et j'étais là, mais comment une femme aussi gentille, aussi bienveillante, avec qui je m'entendais hyper bien, d'un coup, pouvait avoir ce discours-là? Et là, je me suis dit, ok, donc en fait, je vois pas en fait la lumière là au bout du tunnel. Je la voyais pas du tout à ce moment-là. Et je me suis dit, en fait, là, il va falloir que tu fuis tout de suite et que tu partes. Et c'est hyper dur. Et la décision, je voulais pas la prendre. C'est mon conjoint qui m'a dit, Amandine, si tu ne démissionnes pas, c'est moi qui les appelle. Parce que moi, je voulais pas. Parce que quand t'es avocat et que tu qu'on te remercie gentiment et qu'on te dise de prendre la porte de sortie ou que tu décides de partir, tu n'as pas le droit au chômage. Tu n'as pas de chômage.
Ouais, donc t'as plus de revenus et c'était pas le moment, quoi.
Du jour au lendemain, t'as zéro, en fait, à la fin du mois. Et quand tu viens d'avoir un bébé, c'est compliqué. Mais j'allais au travail, la boule au ventre, je repartais, j'étais heureuse comme tout de rentrer chez moi. C'était horrible. J'ai commencé à ce moment-là à écouter mon corps, en fait. Je me suis dit, c'est pas possible d'avoir une boule dans le ventre, de pleurer. C'est pas moi, enfin, je me reconnaissais pas, c'est pas moi, je suis pas comme ça. Donc j'ai décidé de démissionner. Et là, c'est comme pour l'annonce de la grossesse, pour annoncer que tu veux partir. Je crois que j'ai mis, je sais pas. Et un jour, je me suis dit, Amandine, il y aura jamais de bon moment. Et donc, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'étais tellement, tellement vulnérable que je me suis mise dans une position de victime, en fait. Et elle me disait que je faisais sans doute une dépression postpartum. Dans ma tête, j'étais là, mais ça n'a rien à voir. Elle sait même pas ce que c'est. Enfin,
Ouais, t'étais incomprise de toute façon.
J'avais pas envie de me battre et j'étais là, quand est-ce que je peux partir, quoi? C'est tout ce qui m'importait. Et après, j'allais beaucoup mieux quand j'ai su que ça y est, j'avais pris cette décision. Mais comme je voulais pas rester sur un échec, je voulais pas, en fait, je crois que j'étais pas prête à partir définitivement et à me retrouver du jour au lendemain chez moi. Je me suis laissée une seconde chance dans un autre cabinet. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était le métier qui n'était plus fait pour moi. Ça m'excitait plus, en fait, de réfléchir toute la journée aux problèmes des autres.
T'étais plus dedans et ça y est, t'avais passé un autre cap, t'avais besoin d'autre chose, quoi.
J'avais besoin d'autre chose. Donc, quand on m'a demandé de renouveler mon contrat, je remplaçais une consoeur qui était partie en congé maternité. Quand on m'a demandé si je voulais rester, j'ai dit non. J'ai dit non, c'est fini.
Et t'as osé dire non?
C'était clairement pas le moment. C'est justement parce que c'est pas le moment, le bon moment, que ça le devient. Et j'ai essayé de me convaincre de ça, de me dire que c'était justement le bon moment pour moi de partir. Parallèlement, j'avais commencé un bilan de compétences qui m'a mené nulle part. Mais je me suis posé des questions. Ça m'a permis, en tout cas, de me poser des bonnes questions. Et puis, de fil en aiguille, c'est comme ça aussi que j'ai découvert le coaching et que je me suis dit, mais c'est ça en fait que j'ai envie de faire maintenant. Et comme quoi, parfois, on pense que c'est pas le bon moment, mais c'est le début de quelque chose de nouveau. Et la machine, faut faire confiance en fait. Et la machine se met en route toute seule.
De toute façon, quand c'est quelque chose qui t'anime, ça marchera toujours parce que tu y mets tes tripes. Si t'es plus dedans, effectivement, ça marche plus. Mais là, visiblement, le coaching, tu y as mis tes tripes.
Oui, complètement. Je continue à les mettre.
Justement, comment tu t'es formée? Est-ce que, enfin, du coup, t'as fait une formation de coaching? Comment ça s'est passé toute cette transition? Parce que t'étais nouvelle maman et en même temps, t'apprends un nouveau métier, donc hyper dur, non?
Ouais, c'était hyper dur. Alors, j'ai eu une petite expérience salariée parce que j'avais besoin aussi d'argent, parce que je me disais que j'aurais aussi un peu de chômage si j'arrêtais. Ça, c'était pendant le Covid. Ça, c'était avant ma formation. Je crois que ma formation, je l'avais commencée en même temps. J'avais fait c'était un peu le side project. Et donc, j'ai choisi une formation certifiante parce que c'était important pour moi. Aujourd'hui, tout le monde peut être coach. Si tu as envie d'être coach, tu peux t'auto-proclamer coach demain. Mais c'était important pour moi d'avoir une école qui délivre un diplôme qui est reconnu par l'État, justement pour me démarquer de tous ces coachs et parfois même ces charlatans, hein, clairement, il y en a. Donc, c'était important pour moi d'avoir une formation de qualité pour pouvoir accompagner les femmes. Je savais dès le départ que ce seraient les femmes. Je savais pas comment encore, puisque j'étais pas coach, mais je savais que ce seraient les femmes. Et donc, j'ai suivi cette formation pendant 9 mois, à la fois en distanciel et en présentiel. Et au bout de 9 mois, j'ai présenté un mémoire. Je me souviens que les membres du jury avaient trouvé ça un peu pas osé parce que il n'y avait pas de jugement à avoir sur le sujet qu'on choisit, mais ils étaient un peu réticents. Enfin, je pense qu'ils avaient aussi un peu peur pour moi parce que ce sujet-là, c'était une niche et c'était ma volonté. J'annonçais en fait clairement que moi, j'allais me spécialiser là-dedans et c'était le coaching comme accompagnement de la femme après la naissance d'un enfant. Je suis tombée enceinte. Enfin, j'étais enceinte de quelques mois quand j'ai soutenu ce mémoire de mon deuxième enfant. Et donc, j'ai les débuts, en fait, du coaching au féminin. Ça a été compliqué, oui et non, mais en fait, ça a été retardé par cette deuxième grossesse, puisque j'ai pris le temps aussi d'accueillir cet enfant, de planter les graines, ça a été complètement différent. Et puis là, je travaillais plus, enfin, j'étais à mon compte, mais je travaillais pas encore. J'avais plus de temps, en tout cas, pour profiter de cette grossesse, même si tu as le stress, parce que tu commences quelque chose de nouveau, à laquelle tu connais rien, parce que c'est un nouveau métier. Et au-delà du nouveau métier de coach, c'est le métier d'entrepreneur qui est tout nouveau et que je connaissais pas du tout. Donc, et comme j'étais à la maison parce que j'étais à mon compte, tout le monde partait du principe, y compris moi, que c'était à moi d'aller chercher les enfants tout le temps, etc. Donc, ça a mis du temps à démarrer. Mais une fois que tout ça a été derrière moi, le Covid, que la vague Covid est passée, etc., là, je m'y suis mise à fond, quoi. Parce que c'est ce que j'aime faire, parce que je suis convaincue plus que jamais que ce sujet-là, c'est un nouveau sujet, c'est sûr, c'est un sujet de niche, mais c'est un sujet qui est tellement important, tellement, et c'est ça aussi qui fera la différence demain dans les entreprises. J'en suis convaincue. Et tous les jours de ma vie, on me le confirme. Donc, c'est chouette.
Aujourd'hui, tu te sens beaucoup plus à ta place ?
Totalement. Et j'adore ça, et j'adore le coaching, et j'adore la diversité, en fait, des choses que je fais. Mes journées qui se suivent, mais qui se ressemblent pas, cette liberté que j'ai. Et que j'avais choisi le métier d'avocat aussi pour la liberté, parce que le statut libéral fait que tu es censé, encore une fois, pouvoir t'organiser comme tu veux. Mais cette liberté, je l'avais pas. Et moi, la liberté, c'est la valeur la plus importante pour moi dans ma vie. Alors, on n'est jamais libre totalement parce que on a des clients, l'entrepreneuriat fait que, il y a aussi des contraintes. Mais la liberté, si tu as envie qu'elle dirige ta vie, à toi aussi de faire en sorte qu'elle la dirige. À chaque fois où moi, je sens qu'il y a une contrainte ou que je me sens pas libre, à moi de m'asseoir et de me dire qu'est-ce qui se passe là, pourquoi je me sens pas libre. Moi, c'est vraiment ça qui me guide, la liberté. Et aujourd'hui, j'ai la liberté de faire vraiment tout ce que j'ai envie de faire. Et quand je me sens moins libre, je me pose plusieurs fois la question, est-ce que j'ai envie d'aller dans cette direction-là ou pas? Est-ce que ça vaut le coup? Parce que parfois, effectivement, il y a des contraintes aussi extérieures qui font que, mais est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et j'ai jamais regretté, en fait. Jamais regretté. Donc, tant que je serai animée par ce que je fais, que je me sentirai utile, tout le monde, on fait aussi notre métier pour avoir aussi de la reconnaissance. Ça, faut pas avoir peur de le dire, mais tant que je me sentirai utile, que j'aurai la reconnaissance de ces personnes-là et que je me sentirai libre, je continuerai à le faire parce que je sais que c'est important. Il y a trop de femmes aujourd'hui qui sont en difficulté quand elles reprennent le travail. On a toujours le choix. C'est nous qui décidons de rester dans nos travers ou dans la situation. Mais quand une situation ne nous plaît pas, on n'a pas 36 000 options en réalité. Soit on continue à faire ce qu'on fait au risque d'être malheureuse, soit on la change et on fait tout pour aller vers quelque chose de meilleur.
Ouais, c'est clair. Est-ce que tu aimerais dire un dernier petit mot aux mamans et aux femmes qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire?
Eh bien, quelque chose que je dis souvent, parce que je ne sais pas, cette phrase, je ne sais plus dans quel contexte elle m'est venue, mais je trouve qu'elle aide aussi à déculpabiliser, et je vais vous la partager. La reprise du travail, en tout cas avoir un bébé, ne marque pas la fin de votre vie professionnelle, mais marque simplement le début d'un nouveau chapitre. C'est pas parce que vous avez un bébé que vous êtes devenue maman que pour autant votre vie professionnelle elle s'arrête. Et on peut aujourd'hui, on a la possibilité d'être maman et de travailler, on a la possibilité d'être maman et de pas travailler. On a toutes les options, en fait, s'offrent à nous de choisir ce vers quoi on a envie d'aller.
Merci Amandine pour ce super mot de la fin qui, je pense, résonne pour tout le monde. En tout cas, pour ma part, ça résonne beaucoup. Écoute, on te souhaite que du bonheur pour cette nouvelle année. Et puis, en tout cas, merci beaucoup.
À toi aussi. Merci beaucoup et plein de bonnes choses pour cette nouvelle année.
L'épisode touche à sa fin. Merci Amandine pour ta franchise. Et mesdames, maintenant vous le savez, si vous l'ignoriez, même si j'en doute, le retour au travail, on ne le néglige pas. On s'y prépare, on s'arme. Et si on n'a plus envie de faire ce travail,
pour X ou Y raison, si on se sent plus à sa place, il y a d'autres options. Je sais que bien souvent, c'est le côté financier qui nous empêche de faire des choses, qui nous empêche de franchir des étapes. Mais peut-être qu'il y a d'autres options que vous pouvez envisager. En tout cas, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que ne vous empêchez pas de rêver grand, faites ce qui vous plaît, et puis vous vous sentirez peut-être plus à votre place. C'est tout pour aujourd'hui. On n'oublie pas, comme d'habitude, de mettre des petits commentaires sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous écoutez l'épisode. Ça donne de la visibilité aux histoires que l'on raconte sur ce podcast et ça m'aide à développer davantage le podcast. Et pour suivre le quotidien des épisodes, rendez-vous sur le compte Insta maman.travail. À dans 14 dodo!